VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h à Mopti au Mali, 13h à Kigali, au Rwanda. Bonjour à tous. L'OTAN célèbre ses 70 ans à Washington et le président américain lance aujourd'hui les festivités marquant cet anniversaire. Donald Trump reçoit notamment son secrétaire général Jens Stoltenberg, l'ex-premier ministre norvégien dont le mandat à la tête de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vient d'être prolongé jusqu'en 2022. Il est attendu dans l'après-midi à la Maison-Blanche aujourd'hui, à la veille d'une réunion ministérielle de 2 jours dans la capitale américaine. Et c'est aujourd'hui, 2 avril, qu'expire le délai donné par les parlementaires démocrates au ministre américain de la Justice, William Barr, pour rendre public le rapport complet du procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur d'éventuels liens entre les proches de Donald Trump et la Russie. Mais le ministre américain de la Justice avait déjà annoncé vendredi que la version expurgée ne sera rendue publique que d'ici la mi-avril. La suite promet un bras de fer entre l'attorney general et les démocrates du Congrès. Idrissa Seydoudia.
Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants sont prêts à avoir recours dès demain à l'assignation à comparaître pour forcer le ministre de la Justice William Barr à lui remettre dans son intégralité le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. La commission avait donné à M. Barr jusqu'à ce mardi pour obtempérer, mais ce dernier s'est contenté de promettre d'ici mi-avril une version expurgée de ce rapport en raison de matériel confidentiel à protéger.
Merci Idrissa. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne devient chaque jour plus probable, a déclaré mardi, aujourd'hui donc, le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, au lendemain d'une nouvelle série de votes indicatifs au Parlement britannique. Le Royaume-Uni se trouve donc dans l'impasse ce mardi, à 10 jours seulement de sa sortie de l'Union européenne, après le rejet hier soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement. Le gouvernement se réunira aujourd'hui 2 fois. La première réunion sera consacrée à la situation au sein du Parti conservateur. La seconde réunira les principaux ministres autour de Theresa May. Au total, les discussions devraient durer environ 5 heures. La Cour suprême du Venezuela a demandé hier la levée de l'immunité parlementaire du chef de file de l'opposition, Juan Guaido, un rebondissement aux conséquences imprévisibles dans un pays plongé dans le chaos. Dans un arrêt rendu hier, lundi, la plus haute juridiction vénézuélienne a demandé au président de l'Assemblée nationale constituante de lever l'immunité parlementaire de M. Guaido, reconnu président par intérim par une 50aine de pays. Il est reproché à M. Juan Guaido, qui est le président du Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. À Washington, il est 7h03.
Nos infos sur voafrique.com.
Mopti Gao Tombouctou, il est 11h04 au Mali. La force française Barkhane va désormais étendre ses efforts de l'autre côté du fleuve Niger, dans la zone adjacente du Gourma, frontalière du Burkina Faso. La force anti-djihadiste s'était jusque-là limitée à une série d'opérations militaires pendant 1 an et demi dans le Liptako, dans le nord-est du Mali. La nouvelle zone d'opération de Barkhane est un vaste espace de passage situé sous la boucle du fleuve Niger, traversé par la route reliant Bamako à Gao dans le nord. Le Gourma s'étend sur 3 régions maliennes, Gao, Tombouctou et Mopti. Il est réputé être une zone sanctuaire pour plusieurs groupes armés, implantés notamment dans les forêts et à la frontière avec le nord du Burkina Faso, souligne le général Frédéric Blachon, le commandant de l'opération Barkhane. On va au Burkina Faso. Plus de 10 personnes ont été tuées entre dimanche et lundi dans des attaques dans le centre-est et au Sahel. À Ouagadougou, retrouvons notre correspondant Lamine Traoré pour le point.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga dans la province du Boulgou, région du centre-est, a annoncé lundi soir le ministère chargé de l'administration du territoire. 8 civils ont été tués dans l'attaque et 4 autres blessés selon le gouvernement. Selon toujours le gouvernement, les assaillants ont pillé et incendié les boutiques et le marché du dit village avant de replier. si le mobile de cette attaque n'est véritablement pas encore connu. Le ministère de l'administration territoriale tente d'expliquer que cette attaque serait un rebondissement de la crise qui s'écoule depuis un certain temps. La chefferie coutumière de cette localité, cette fois-ci à Arbinda, dans le Soum, région du Sahel, les guides spirituels et deux membres de sa famille ont été tués ce week-end, selon des sources sécuritaires. En attendant une annonce officielle des autorités, plusieurs sources indiquent que suite à l'assassinat de ce guide spirituel, plusieurs autres personnes ont été tuées hier lundi. La situation reste tendue à Arbinda et les populations craignent de nouvelles violences, ont précisé d'autres sources à VOA Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le 25e anniversaire du génocide au Rwanda cette semaine, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, a recueilli le témoignage de Sixbert Bigirimana, jeune banquier de 33 ans. Il avait 8 ans au moment du génocide, mais aujourd'hui, il a pardonné à ceux qui ont tué son père et sa mère et se dit résolument optimiste quant à l'avenir du Rwanda et de l'Afrique.
En 1994, je n'avais que 8 ans. Quand l'avion présidentiel a été abattu, j'ai vu beaucoup de mouvements à la maison, beaucoup de gestes, mais je ne parvenais pas à savoir exactement ce qui se passe. On nous avait interdit de jouer, on nous avait interdit de circuler dans toutes les chambres et on nous demandait seulement de rester dans une seule chambre. Le lendemain, les aînés là, moi, avaient déjà attaqué à la maison. On a pu sauter le mur pour aller chez les voisins. Parce qu'on était une fratrie de 7 enfants. Une partie est allée chez les voisins pour se cacher. Et nous, on est partis encore chez d'autres voisins. Ils ont continué à tuer beaucoup de gens. Finalement, on apprendra que nos parents ont été tués avec un enfant là où ils étaient cachés. Un de mes frères, qui connaissait déjà les petites ruelles, a attendu la nuit pour nous amener là où il y avait de la sécurité. Il y avait un blanc qui était dans un des orphelinats qu'on appelle le centre mémorial Gisimba, et c'est là où on nous a amenés. Les Inéramoués viendront plus tard apprendre que dans cet orphelinat, il n'y a pas que des enfants, que même les adultes se sont réfugiés là-bas. C'est là où les problèmes commencent.
Ils vont attaquer l'orphelinat ?
Ils ont voulu attaquer l'orphelinat, mais grâce à ce monsieur, à ce blanc-là, je ne me rappelle pas son nom, seulement mon seul souvenir, je me rappelle qu'il travaillait dans une ONG qui s'appelle ADRA, qui fournissait de l'eau potable, car il a sauvé beaucoup de gens. Grâce à ses connaissances et à ses contacts, il a pu nous évacuer à la cathédrale Saint-Michel, c'est au centre-ville, et c'était gardé. À la cathédrale Saint-Michel, on est resté là-bas jusqu'à ce que les soldats du FPR prennent Kigali. Et quand Kigali, la ville de Kigali a été prise, même si j'étais petit, je l'ai vu directement sur le visage des gens. Les gens, ils souriaient, ils étaient contents. Notre tante maternelle nous a récupérés. Bien sûr, l'État a mis à notre disposition une institution qui devait couvrir nos frais de scolarité, le Minerval et tout le reste.
Vous avez fini vos études en quoi?
J'ai fini mes études dans les finances. Je suis un banquier, je suis marié avec un enfant. Je suis à la banque commerciale du Rwanda.
25 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'il a pardonné?
J'ai eu de la chance, j'étais encore petit. J'ai 33 ans. C'est aujourd'hui, à cet âge-ci, que je me rappelle et j'ai la nostalgie de mes parents. Mais tout compte fait, je vois que j'ai certains frères et certaines sœurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Il y en a d'autres qui ont trop souffert plus que moi. Moi, je crois que je les ai pardonnés. Puisque si vous regardez aussi, vous trouverez des gens, même des Hutus qui ont sauvé des gens. Il y a des Hutus qui ont sauvé des gens. Ma chance, c'est que j'étais encore petit. J'ai la nostalgie de mes parents, c'est vrai. Mais ce qui est arrivé dans ce pays, je ne suis pas le seul. Il y en a ceux qui ont connu pire. Mais j'ai pardonné.
Marié, une fille, banquier. Est-ce qu'on peut dire qu'il se considère comme un homme heureux maintenant?
Je suis très heureux. J'étais petit pendant le génocide. Mais je crois que avoir aujourd'hui une femme et un enfant, avoir ma famille, ça vient combler ce vide de mes parents.
Témoignage recueilli à Kigali par notre envoyé spécial, Idriss Fall, celui qui parlait, son nom, c'est Sixbert Bigirimana, jeune banquier de 33 ans au Rwanda. Une soixantaine d'associations de la société civile tanzanienne ont dénoncé une série de mesures répressives contre l'opposition et demandé au président John Magufuli de dialoguer avec ses opposants pour sauver l'unité et la paix du pays. Elles dénoncent notamment l'interdiction des manifestations et des rassemblements publics de l'opposition. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.